Bonjour, je suis Bélès Conley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Bonjour et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Où que vous soyez, quoi qu'il se passe dans votre vie, sachez que Dieu vous voit, qu'il vous aime, qu'il connaît votre histoire et qu'il désire vous aider. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si vous m'écoutez en ce moment, et je suis convaincu que quelque chose va se produire au cours des prochaines minutes pendant que nous étudions la parole de Dieu, qui sera important pour vous. Je suis convaincu que le Seigneur va vous parler à travers sa parole aujourd'hui. Nous étudions actuellement le livre des Philippiens. L'église de Philippe est née dans un contexte de grande persécution. L'apôtre Paul et Silas se sont rendus dans la ville de Philippe à la suite d'une vision que Paul avait eue, dans laquelle un homme de Macédoine avait dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». On pourrait penser qu'après avoir reçu une révélation divine, ils auraient été accueillis aux portes de la ville, qu'on leur aurait remis les clés de la ville et ouvert le plus grand auditorium pour qu'ils puissent y prêcher. Mais il n'en fut rien. Une convertie, une femme, nommée Lydie, fut la toute première convertie européenne. La ville de Philippe contrôlait la route entre l'Europe et l'Asie. Elle était très stratégique. Elle devait son nom à Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. De nombreuses guerres et batailles furent menées pour contrôler cette région, en raison de son importance stratégique, également stratégique pour l'Évangile. Lydie est sauvée. Ensuite, Paul chasse un démon d'une jeune fille devineresse, qui les suit partout en proclamant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Ce qu'elle disait était vrai, mais l'esprit derrière ses paroles n'était pas bon. Je suis presque sûr qu'elle disait cela sur un ton moqueur. Le diable ne contribue jamais à la cause, quoi qu'elle ait fait et quelle que soit la manière dont elle l'a fait, ce n'était pas pour le bien de l'Évangile. Paul chasse le démon de la jeune fille. Ses maîtres sont mécontents car leur espoir de profit s'envole. Ils soulèvent la foule, font battre Paul et Silas et les jettent en prison. Vous connaissez l'histoire. Dieu envoie un tremblement de terre, les fesses s'échapper, le geôlier ainsi que sa famille sont sauvés, ils sont baptisés dans l'eau et une église voit le jour. Cette lettre a été écrite environ 10 ans plus tard. Paul se trouve dans une prison romaine et écrit à ces personnes ainsi qu'à d'autres. Il adresse cette lettre à tous les saints en Jésus-Christ, aux responsables et aux diacres. L'église de Philippe possédait en réalité plusieurs lieux de culte. Il leur écrit, et nous avons parcouru les 6 premiers versets la dernière fois. Je voudrais reprendre en Philippiens 1:6, puis nous continuerons à partir de là. Paul écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu a commencé en vous, il l'achèvera. Vous êtes un travail en cours. » J'ai donné ma vie à Jésus il y a environ 50 ans. Lors d'une mission de rue, dans une ville appelée Medford, dans l'État de l'Oregon. Pour ceux qui ne connaissent pas bien les États-Unis, l'État de l'Oregon se trouve juste au-dessus de la Californie, et c'est là que j'ai donné ma vie à Christ. Il m'a immédiatement transformé intérieurement. Mon esprit est né de nouveau, je suis devenu un enfant de Dieu. Mais ensuite vient le processus de faire ressortir à l'extérieur ce qu'il a mis à l'intérieur. Au cours des 50 dernières années, j'ai étudié la parole de Dieu et j'ai fait de mon mieux pour marcher auprès de Jésus. Je suis toujours un travail en cours. Je suis en train d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. En tant que croyant, il n'en a pas encore fini avec vous. Il poursuivra cette bonne œuvre qui consiste à vous transformer à l'image de Jésus jusqu'au jour où Christ reviendra. Puis il dit ceci dans le verset suivant. « Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. » Paul écrit aux croyants de Philippe, « Vous êtes dans mon cœur, Dieu vous a mis dans mon cœur, je sais qu'il est juste que je pense ainsi. Il achèvera ce qu'il a commencé à votre sujet. » En effet, que je sois ici en prison ou que je sois libre, que je prêche l'évangile hors de ces murs, vous participez tous à la même grâce que moi, la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Il dit au verset 8, « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Le cœur de Paul était en harmonie avec celui de Dieu. Dieu les aimait, et l'apôtre Paul les aimait aussi. Les quelques lignes suivantes que Paul leur écrit sont très importantes. Je vais simplement les introduire par ceci. Je suis sûr que certaines personnes qui me regardent ont été blessées. Vous avez essayé de faire ce qui était juste et vous en avez souffert. Peut-être avez-vous été blessé parce que certaines personnes de l'Église vous ont fait. Certains chrétiens vous ont traité injustement. Les blessures causées par l'Église sont réelles, mais la guérison par l'Église l'est aussi. Vous ne pouvez pas cesser d'aller à l'Église et vous isoler du corps de Christ à cause des hypocrites dans l'Église ou parce que quelqu'un vous a maltraité. Nous sommes en train d'être transformés à l'image de Jésus. Vous pouvez lire en Luc 6 que Jésus et ses disciples, le jour du sabbat, avaient faim et traversaient les champs de blé. Les disciples ont arraché des épis et les ont mangés après les avoir froissés dans leurs mains. Certains pharisiens ont vu cela et ont dit « Ce que vous faites le jour du sabbat est illégal ». Ils avaient ajouté tellement de règles et de règlements à l'intention de Dieu pour le sabbat qu'ils en avaient complètement dénaturé le sens. Ils ont dit « Froisser le grain entre vos mains, c'est du travail, c'est illégal et c'est un péché ». C'était ridicule, mais ils ont essayé de se disputer avec lui. Puis dans le verset suivant, en Luc 6, nous lisons « Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. » Si vous comparez cela avec le récit de Matthieu, il est écrit « Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. » Il est entré dans la maison de culte de ceux-là même qui venaient d'essayer de se disputer avec lui. Il y avait là un homme qui avait la main paralysée et il l'observait pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin d'avoir matière à l'accuser. Il n'était pas là avec un cœur ouvert et il ne se souciait pas de leur fidèle qui était handicapé. D'ailleurs, il n'était pas content qu'il soit guéri. Ils étaient en colère et commencèrent à comploter pour assassiner Jésus. Ces hommes ont maltraité Jésus, ils essaient de se disputer avec lui. Et que fait-il ? Il se rend dans leur église, ce qui est un excellent exemple pour nous. Vous avez peut-être été blessé par des personnes à l'église, mais ce n'est pas une raison pour cesser d'aller à l'église. Vous devez retourner dans la maison de Dieu. Oui, il y a des hypocrites dans l'église. C'est le meilleur endroit pour eux, car en écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut les transformer. Peut-être avez-vous même été maltraité par des responsables de l'Église. Cela ne doit pas devenir un obstacle vous empêchant de fréquenter votre Église. Vous devez aller à l'Église. Vous devez y aller. Je dis cela à cause des quelques passages que nous allons lire maintenant en Philippiens. Écoutez attentivement, c'est tellement profond. Au verset 9 et 10, il dit « Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Intéressant. Il prie pour que leur amour augmente de plus en plus. C'est le mot grec « agapé », c'est l'amour divin. Selon Romains 5, cet amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Le même amour que Dieu a été déversé en nous par le Saint-Esprit. Il est là si vous êtes chrétien. Peut-être qu'il ne s'exprime pas encore en vous, mais il est là, et vous devez le laisser s'exprimer. Cet amour s'exprime essentiellement de deux manières. Il s'exprime par le don et il s'exprime par le pardon. Pardonner les torts qui nous sont faits, donner aux autres et donner à l'Évangile. C'est ainsi que s'exprime l'amour de Dieu. Selon 2 Corinthiens 5, je crois qu'il s'agit de 2 Corinthiens 5, 14, l'amour de Christ nous presse. Littéralement, il y a une pression intérieure, il y a une pression intérieure par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu veut sortir et il veut s'exprimer en pardonnant les torts qui nous ont été faits, en donnant, en étant généreux, en aidant les autres et en soutenant l'œuvre de l'Évangile. Les Philippiens avaient répondu à cette pression intérieure de l'amour de Dieu, cette force intérieure de l'amour de Dieu, par leur don. Nous avons vu cela la dernière fois au verset 5. Paul a dit, « Depuis le premier jour où vous avez entendu l'Évangile, vous avez pris part avec moi. » Si nous lisons les Écritures, nous pouvons parcourir tout le Nouveau Testament et découvrir qu'ils étaient en fait la seule Église à le faire. Ils ont soutenu Paul de manière continue et fidèle. Ils ont donné afin que d'autres puissent entendre la bonne nouvelle. Ils ont donné afin que l'œuvre de Christ puisse se répandre. Paul prie pour que, même s'ils ont déjà exprimé cet amour augmente, mais qu'il augmente sous la direction de la connaissance et de la pleine intelligence pour qu'ils puissent discerner ce qui est essentiel. Réfléchissez-y. Je prie pour que l'amour de Dieu qui a été déversé dans votre cœur augmente et s'exprime de plus en plus à travers le don et le pardon, mais qu'il augmente en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. La connaissance nous vient par la parole de Dieu et le discernement nous vient par le Saint-Esprit. Kenneth Weiss, le grand érudit grec, l'exprime ainsi dans sa traduction. Que votre amour déborde, mais qu'il reste en même temps dans les limites guidées par une connaissance précise de la parole de Dieu. A.S. Worrell fait ce commentaire dans sa traduction du Nouveau Testament. L'amour accompagné d'une connaissance complète de la vérité et d'un esprit de discernement correct est l'une des plus hautes réalisations spirituelles. L'amour sans ces deux éléments est aveugle et peut conduire à de nombreux excès. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement, car vous n'avez probablement pas, du moins je n'ai pas entendu parler de ces choses dans de nombreux cercles, mais c'est tellement important. Paul dit, « Je veux que vous exprimiez votre amour, mais je veux aussi que vous réalisiez qu'il y a des limites. » Il y a des lignes directrices qui nous sont données par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu pour exprimer cet amour. Vous vous dites peut-être, « Bayless, que voulez-vous dire ?» Je veux dire ceci. À titre d'exemple, il y a plusieurs années, un homme est venu me voir. Il était peintre de profession. Non pas artiste peintre, mais peintre en bâtiment. Il peignait l'intérieur et l'extérieur des maisons. Il est venu me voir et je pense qu'il était déjà venu à l'église une ou deux fois auparavant. Il était nouveau. Je me souviens m'être assis avec lui un soir et il m'a dit, « Écoutez, pasteur, j'ai besoin d'aide. Le travail se fait rare, mais j'ai un emploi. Je commence dans 2 jours et je vais être bien rémunéré. J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à tenir le coup. » Eh bien, l'amour de Dieu en moi me poussait à l'aider. Il était assez tard dans la soirée lorsque j'ai accepté de le rencontrer. Je lui ai dit, « Je peux vous aider personnellement maintenant. Je sais que vous êtes en difficulté, mais il va falloir que je récupère cet argent. Vous dites que vous commencez un travail et que vous allez être payé. Pouvez-vous me rembourser dans la semaine ? Voici le montant que je vais vous prêter, mais j'en ai besoin pour les vacances en famille que je vais passer avec ma femme et mes enfants. Pouvez-vous me rembourser d'ici la fin de la semaine ? » Il a répondu, « Absolument, pasteur, pas de problème. » Je lui ai donc donné l'argent. Je ne l'ai plus jamais revu ni entendu parler de lui depuis. Il m'avait berné. C'était l'amour de Dieu qui s'exprimait en moi et cet amour veut toujours donner. Je ne passe jamais devant un sans-abri dans la rue sans vouloir l'aider d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est arrivé l'autre jour. Je déjeunais avec un homme qui était autrefois pasteur d'une église, mais il ne l'est plus aujourd'hui, et je le vois de temps en temps. Après le déjeuner, nous avons rejoint nos voitures et il y avait un sans-abri. Je me suis approché, j'ai commencé à lui parler pour m'assurer qu'il allait bien. Je lui ai demandé s'il avait des besoins urgents. Et je fais ça tout le temps. Je pense que l'amour de Dieu nous pousse à agir ainsi. Mais ce jour-là, je n'ai pas exprimé cet amour dans les limites dictées par la connaissance et le discernement. Je n'ai pas écouté le Saint-Esprit qui, je pense, essayait de m'avertir que cet homme se jouait de moi. Il est parti avec l'argent destiné à nos vacances. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé, ou pas passé, avec ma famille cette année-là. Il y a des limites. C'est pourquoi vous devez avoir une histoire d'amour avec le livre de Dieu. En voici une. 2 Thessaloniciens 3:10 dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » C'est une limite directrice pour exprimer l'amour de Dieu. Pourtant, certains ont soutenu des profiteurs et ce que nous appelons des sangsues. Les sangsues veulent simplement vivre aux dépens des autres et ne veulent pas travailler. Ils pensent « Ce ne serait pas de l'amour si je ne les aidais pas. » Non. Nous avons une limite directrice. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne devrait pas manger non plus. Vous ne devriez pas payer son loyer ni lui faire un don, d'un point de vue biblique. Nous ne parlons pas ici de quelqu'un qui ne peut pas travailler en raison d'un handicap, de son âge ou de toute autre bonne raison, mais de quelqu'un qui ne veut pas travailler. Je me souviens d'un jeune homme qui fréquentait l'église il y a des années, en bonne forme physique, plutôt beau garçon. Il recevait de l'argent de différentes personnes. Il avait toujours une bonne excuse. Il est venu me voir et m'a demandé de l'aider. Je lui ai demandé, « Avez-vous un emploi ?»« Non. » »« Écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. » Je lui ai trouvé 3 endroits différents qui embauchaient. Je lui ai dit, « Tu peux postuler ici, tu peux postuler ici, tu peux postuler ici. » Ils embauchent tous. J'ai vérifié. Tiens. Il a répondu, « Non, je n'aime pas ce genre de travail. Non, je n'aime pas ça. Non, je ne vais pas faire ça. » Il m'a dit qu'il ne voulait rien de tout cela, mais qu'il voulait que je lui donne de l'argent. Je lui ai dit, « Je ne te donnerai pas d'argent de l'Église. Tu es jeune, tu es fort, tu peux travailler. » Il m'a répondu, « Ce n'est pas de l'amour, c'est mal. Tu es censé donner à ceux qui te le demandent. » Je me suis un peu énervé contre lui et je lui ai dit, « Je ne vais pas te donner d'argent et je vais aussi parler à toutes les personnes qui t'ont aidé et dont tu as profité. » Là, c'est lui qui était en colère, mais je l'ai fait. J'ai dit à 3 ou 4 personnes qui le soutenaient, « Je ne vais pas vous dire quoi faire, mais sachez que ce jeune homme est capable de travailler et il y a assez de travail disponible, mais il refuse de travailler. Tant que vous paierez son loyer et que vous lui donnerez de l'argent pour se nourrir, il continuera à ne pas travailler. » Les personnes à qui j'ai parlé m'ont répondu, « Pasteur, vous avez raison, mais nous nous sentions condamnés. Il nous faisait sentir coupables si nous ne l'aidions pas. Mais vous avez raison. J'ai l'impression que le Saint-Esprit nous disait cela de toute façon. » Ils ont cessé de lui donner, et il s'est mis en colère et est parti à la recherche d'une autre église, où il pourrait non pas prêt, P-R-A-Y, c'est-à-dire prier en anglais, mais prêt, P-R-E-Y, c'est-à-dire profiter des personnes. Peut-être même s'agit-il de membres de votre famille. Certains membres de votre famille refusent de travailler et veulent que vous les souteniez. Cela vous a rendu la vie très difficile, au point que vous avez peut-être rompu votre communion avec Dieu parce que vous vous rendez compte qu'on profite de vous. Écoutez, Dieu n'a jamais voulu que vous, ni moi, exprimions notre amour en subvenant aux besoins de telle personne. C'est de l'amour sans connaissance ni discernement. Paul a prié pour que notre amour augmente, mais dans les limites fixées par la connaissance, la parole de Dieu et le discernement en écoutant la voix du Saint-Esprit. Je connaissais un homme lorsque j'ai été sauvé. Il était en quelque sorte le pasteur d'un groupe de jeunes dans la région. J'ai appris à bien le connaître. Chaque fois que j'allais chez lui, cet homme aimait le Seigneur. Il avait une femme et des enfants. Des gens logeaient constamment chez lui. Il aimait les gens, il organisait des études bibliques avec eux, partageait la parole de Dieu avec eux, mais cela manquait de sagesse. Il avait de la compassion pour eux, mais il manquait de connaissance et de discernement. Cela a nui à sa famille. Sa femme n'avait aucune intimité. Lui et sa femme n'avaient aucune intimité. Ses enfants ne passaient pas de temps avec lui. Je n'exagère pas, quand on allait chez eux, il y avait parfois 7 ou 8 personnes qui dormaient sur le canapé et par terre. Elles étaient là tout le temps, et cela mettait une réelle pression financière sur le couple. Il était incapable de prendre soin de sa femme et de ses enfants comme il aurait dû le faire. Cela affectait leur intimité. Sa femme avait l'impression de ne jamais avoir d'intimité et de ne jamais passer de temps avec lui. Cela affectait son temps avec ses enfants, et ça faisait du mal à sa famille. Son mariage n'a d'ailleurs pas tenu, et cela a sans aucun doute été l'un des facteurs. Agissait-il avec amour? Oui, c'était avec un cœur droit, mais cela ne respectait pas les limites dictées par la connaissance et le discernement. Même en tant que nouveau chrétien, je me souviens avoir pensé, c'est sympa, mais ce n'est pas bon pour une famille. Ce n'est pas bon pour un mariage. Pourtant, il ne s'en rendait tout simplement pas compte. Dieu veut que nous marchions dans l'amour et que nous donnions de notre temps, de nos talents, de nos ressources, mais pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui et en toutes circonstances. Dieu veut que nous marchions dans l'amour et que nous pardonnions, mais il ne veut pas que nous fassions confiance à tout le monde. Je vais pardonner, et c'est un cadeau que je fais librement, mais je ne vais pas faire confiance à tout le monde. Dimanche dernier, j'ai prêché un message ici à l'église Cottonwood, lors du service du matin, et une grande partie de ce message portait sur le pardon. L'amour de Dieu nous pousse à pardonner. Les Écritures nous commandent de pardonner aux autres, tout comme Christ nous a pardonnés. Cela fait partie de notre nature, cet amour a été déversé dans notre cœur, mais certaines personnes confondent confiance et pardon. Je vais vous pardonner et je ne vais pas vous en vouloir, mais la confiance doit se mériter. Je ne vais donc pas vous laisser revenir dans ma vie pour me faire du mal ou faire du mal à ma famille une fois de plus. Vous devez prouver que vous êtes digne de confiance. Je vais vous aimer, mais je ne vais pas vous faire confiance tant que vous n'aurez pas démontré que vous êtes digne de confiance. En fait, j'ai parlé ce week-end d'un ami qui m'a profondément blessé en me trahissant d'une manière que je n'avais pas vu venir. Cela m'a profondément déstabilisé pendant un certain temps. Cela a été très difficile à gérer pour moi, très émouvant, mais j'ai pardonné. Et cela a été un acte de foi pour moi. Quand Jésus a dit à ses disciples en Luc 17,4, « Si ton frère a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. » Ses disciples ont répondu « Augmente notre foi ». Parfois c'est un acte de foi et ça l'a été pour moi car j'ai dû dire « Je lui ai pardonné ». Les émotions m'envahissaient, la colère m'envahissait et je me disais « Non, Père, c'est entre tes mains. Je ne laisse aucune place dans mon cœur à l'amertume, à l'animosité ou au manque de pardon ». J'ai dû faire cela presque tous les jours pendant longtemps. Mais finalement, mon âme s'est apaisée au point qu'il n'y avait plus la moindre trace de sentiment négatif. Il dit cela au verset 10, « Que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » C'est important. Il veut que nous discernions ce qui est essentiel. Discerner signifie tester ou essayer, et essentiel signifie littéralement différer. Lorsque nous exprimons l'amour de Dieu en nous, nous devons vérifier ou tester ses moyens d'expression à l'aide de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, à l'aide de la connaissance et du discernement. S'ils diffèrent de ce que dit la parole ou s'ils diffèrent de ce que nous dit le Saint-Esprit, ne les mettez pas en pratique. Nous devons approfondir notre connaissance de la parole de Dieu et développer notre sensibilité à l'Esprit Saint. Pourquoi ? Afin que nous puissions rester purs ou irréprochables, littéralement sans tache, sans offense, sans amertume, sans cynisme et sans colère, qui pourraient s'insinuer dans notre cœur. Afin que nous soyons irréprochables, ce mot en grec signifie littéralement « trébucher ». Afin que nous ne trébuchions pas et ne fassions pas trébucher les autres jusqu'au jour de Christ. Nous devons donc faire preuve de discernement. Cela aura un impact sur les autres, mais cela nous affecte également. Je dois tester les choses à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de ce que le Saint-Esprit me dit, avoir la connaissance et le discernement, afin de ne pas offenser et de ne pas trébucher, afin de rester pur et de ne pas laisser l'amertume s'installer dans mon cœur. Je veux avoir un cœur droit et pur jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Je veux que mon amour augmente, je veux donner de plus en plus, je veux être quelqu'un qui pardonne et qui a un cœur pur. Mais ces limites doivent nous guider, la connaissance de la parole de Dieu et le discernement du Saint-Esprit. Alors mon ami, continuez à aimer, mais restez dans ces limites. À bientôt.
Ce message vous a encouragé ? Si oui, nous serions heureux que vous nous aidiez à produire d'autres émissions. Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur bayless-conley.fr/don et pourrez également faire un don directement en ligne. Les dons réguliers sont d'une grande aide pour notre planification, mais chaque soutien ponctuel a également un impact important. Merci beaucoup.